Alors j'ai voulu nommer cette conférence par une citation d'Ignaz Paul Vital Troxler qui, je crois, a été ensuite repris par différents auteurs, dont Paul Éluard. Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Cette conférence pourrait être considérée comme une explicitation dans le contexte contemporain de cette phrase. Alors je vais tenter en 25 minutes de vous parler des relations entre mon travail artistique et cette fameuse question de l'anthropocène. En préambule, j'aimerais souligner la difficulté d'une telle présentation où je serais en même temps juge et en même temps partie. Cette difficulté est aussi méthodologique car entre le discours et l'art, il faudrait éviter un double écueil, commenter une œuvre par un concept ou alors illustrer un concept par une œuvre. Au fil des années, j'ai développé une méthode pour tenter de relever ce défi de la représentation, que j'ai nommé le parallélisme, en reprenant une interprétation fautive de Spinoza par Leibniz. Pratique artistique et pratique discursive pourraient se suivre comme deux lignes parallèles, sans jamais se toucher. Leur montage ne sera donc ici ni logique ni causal, tel concept aurait été à l'origine de telle œuvre par exemple, mais analogique. Ceci me fait penser à cela, une association d'idées ou d'images donc. La production artistique est bel et bien une pensée, mais non volontaire. Elle est une recherche formelle et c'est sur cette surface que les idées prennent forme. Il y aura dans ce montage quelque chose du bricolage et du flottement, qui exigera sans doute un travail des auditeurs, de vous donc, une appropriation. J'espère donc que cette courte et lacunaire présentation sera l'occasion d'un dialogue entre nous. Alors, je ne vais pas vous proposer un catalogue des pratiques artistiques qui portent aujourd'hui sur l'anthropocène, tant elles sont nombreuses. Je vais plutôt tenter de répondre à la question précise, que fait l'anthropocène à mon imaginaire? C'est-à-dire à ma faculté de lier des images mentales et des images matérielles. Je vais donc me livrer à vous et à ce qui se développe dans mon travail, qui, il faut bien vous le dire, n'est pas identique à ce que je pense. N'attendons donc pas que je défende mon travail. Le 20 avril 2018, à l'Institut national d'histoire de l'art, Jean-Christophe Arcos m'avait fait l'amitié de présenter mon travail pour le prix du critique d'art de l'Association internationale des critiques d'art. Sur une dizaine de présentations, sept plaçaient, d'après mes souvenirs, au cœur de leurs propos le concept d'anthropocène. C'est dire si celui-ci a du succès dans l'art contemporain, comme d'ailleurs dans le reste de la société, et devient un de ces mots-clés qui circulent jusqu'à devenir un mot d'ordre. Il y avait une ressemblance entre toutes ces présentations. L'anthropocène était présenté comme le suprême danger, comme la catastrophe de notre époque, et les artistes devaient, au dire des critiques, nous aider à prendre conscience pour que nous puissions enfin prendre soin de la terre, notre maison, et assurer notre survie. Répondant ainsi mot pour mot au romantisme, je cite Gersdorff dans le Savoir romantique de la nature, l'homme n'est pas pensable en dehors du monde. L'homme n'est pas dans le monde un accident, un étranger. Il est le fils de la terre, lié à la terre par des liens d'appartenance, de sympathie et d'antipathie, dont il ne cesse de ressentir les effets tout au long de son existence. Cet impératif implicite de la survie humaine me posait question. J'y sentais quelque chose remontant des profondeurs de l'histoire, un jugement, une morale, une contradiction dans les termes. Je voudrais justement vous parler de ce problème. L'anthropocène apparaît comme un danger immense qui dépasse nos capacités d'appréhension. Comment en effet percevoir, schématiser et conceptualiser un hyperphénomène qui semble à la fois partout et nulle part, logique du sublime donc. Ce caractère débordant n'est pas nouveau. Je n'en ferai pas l'histoire, le temps me manque. Mais j'aimerais l'introduire du point de vue des flux. On utilise en effet ce mot pour désigner aujourd'hui des phénomènes très différents, voire antagonistes. Les flux financiers et migratoires, les flux de marchandises et d'énergie, les flux climatiques, etc., etc. On applique les flux finalement à trois domaines fondamentaux. La nature, les corps et les techniques. Avec la même tonalité affective, quelque chose qui nous déborde, qui nous met en danger, qui nous submerge et remet en cause notre souveraineté, notre capacité d'agir et de décider. L'Anthropocène articule tous ces flux, je crois, d'une manière inédite. Sans doute, au cours de l'histoire, les premiers flux auxquels se sont confrontés les êtres humains ont été naturels. Ainsi, la civilisation égyptienne s'est construite autour du Nil, à partir du Nil, de son flux et de son reflux, de ses crues et de ses décrues, laissant de riches limons, ambivalence du fleuve, territoire de vie et de mort et de vie. Ce peuple n'a pas maîtrisé le tumulte, il a vécu avec. Ainsi, ces maisons qu'on nommait arkées et qui sont sans doute à l'origine de l'Arche de Noé, devenant flottantes lors de ses crues, ces maisons devenant donc des bateaux. Existe-t-il un lien entre cette dévastation donnant la vie et la vie éternelle à laquelle les Égyptiens se promettaient? L'effondrement du World Trade Center. Image si nouvelle et ancienne. Revenance des destructions des siècles passés. Fascination pour les ruines. Beauté paradoxale de cette marque du temps. Je commence en 2002 une série, Dislocation, qui me prendra plusieurs années, où il s'agit de générer des simulations 3D de destruction et de les rendre si lentes, si propres, si parfaites qu'elles produisent un paradoxe entre ce qu'elles sont censées représenter, des explosions, et leur esthétique. Elles deviennent des flux continus où des objets, une table, une chaise, un ordinateur, deviennent des formes abstraites, sans utilité. La destruction hante notre perception, parce qu'elle déconstruit la relation illémorphique entre la forme et la matière. Je vais sauter des époques, des transitions entre les flux des Nils et ceux de la cité athénienne, baignée par les cycles célestes, entre ceux des humeurs saignées et du Christ ruisselant de sang, de larmes, entre le corps implorant des croyants et ceux des animaux-machines de Descartes, pour atteindre le monde industriel, celui donc de l'Anthropocène, et l'invention d'un autre flux, l'énergie, qui intéresse directement ce séminaire. Cette énergie est quelque chose qui existe et qui est en même temps une idéologie. Il faut bien comprendre que les deux sont inextricables. D'ailleurs, l'énergie est le nom même de cette inextricabilité. La physis, si différenciée, si singulière et insubsumable, va être considérée, grâce à l'énergie, selon une seule et même mesure, le joule. Le monde devient indifférent. Si on le brûle, si on le détruit, il délivre, il peut délivrer un travail. Dépression et pression de la thermodynamique. Image d'un univers qui va vers sa glaciale stabilité, vers sa mort. Rester en vie, rester en mouvement. Inéluctablement, pendant que les machines à vapeur travaillent à l'indifférentiel. L'opération technique est une procédure ontologique. L'énergie ne démarre pas au XIXe siècle, mais elle remonte sans doute à l'énergia aristotélicienne, au premier moteur, dans la physique 7.1.241b. Le mouvement du monde est mu par quelque chose qu'il faut en expliquer, parce qu'il faut en expliquer la causalité, qui est son origine et sa fin, sa téléologie. Début de la conversion de la matière et de l'énergie. Il faut pour cela découper, diviser en morceaux afin de parvenir à l'identité du même. Est-ce sans rapport avec cette autre recherche de l'indivisible, atomique celui-ci? La plus petite particule indifférente? La pensée consisterait à décomposer les différences et à composer l'indifférencié. En 2002, avec ponctuation, je n'ai gardé d'un livre d'Alain Robbe-Grillet, Projet pour une révolution à New York, le 11 septembre, là encore, mais comme par anticipation, que les ponctuations. Que reste-t-il alors du livre? Que pouvons-nous lire de son intensité à travers ces signes? Dans Tsugami en 2007, j'ai poussé cette décomposition des objets en utilisant un logiciel permettant de créer des origamis à partir des formes 3D que j'avais utilisées dans la série dont je vous ai parlé précédemment, Dislocation. Les objets sont mis à plat, décomposés, et cette décomposition est aussi la promesse d'un usage futur. Ce sont en quelque sorte des kits que nous pourrions réutiliser en coupant, en pliant et en collant. Convertibilité de l'énergie qui est aussi celle du monde des objets usagés et consommés. L'indifférence du monde se mondialisant. Ce monde est logistique. Il est le logos fait monde. Chaque objet ou chose est pris dans un réseau instrumental qui va de nous à la nature et qui revient dans l'usage à nous, puis à la nature. Ainsi la lampe, le réseau électrique, la centrale hydraulique, le fleuve, conçu comme un fournisseur qui doit délivrer de l'énergie. L'industrie est une extraction du monde, un arrachement, faisant sortir des matières d'un cycle millénaire pour, une fois utilisées, réenfouir les objets qu'elle avait transformés dans des décharges. L'instrumentalité, l'usage, est un moment si bref dans la temporalité des flux minéraux. En 2010, j'ai créé un logiciel qui génère des plans de destruction. Je transforme une imprimante pour pouvoir y attacher ma main sur la tête d'impression. La machine pilote alors un stylo que je tiens. Je dessine donc de ma main, mais ce n'est pas moi, en tout cas pas seulement moi. Ces dessins sont en vue isométrique, utilisés habituellement dans les plans d'architectes, et laissent donc supposer que ces destructions sont prévues à l'avance. La conception ontologique du monde comme énergie n'est-elle pas fondée sur une mobilisation et une destruction prédatrice de ce à quoi elle s'applique? N'y a-t-il pas derrière la logistique une fuite devant le néant qu'elle produit? Il y aurait en amont un néant donateur et en aval le creusement d'un néant lacunaire. Dans Les Travailleurs de la mer en 1891, Victor Hugo écrit « L'enfant, brisant son jouet, a l'air d'en chercher l'âme. L'homme aussi semble chercher l'âme de la terre. Pourtant, ne nous exagérons pas notre puissance. Quoi que l'homme fasse, les grandes lignes de la création persistent. La masse suprême ne dépend point de l'homme. Il peut sur les détails, non sur l'ensemble. Et il est bon qu'il en soit ainsi. Le tout est providentiel. Les lois passent au-dessus de nous. » Fin de citation. Mais nous changeons à présent les lois parce qu'elles occultent la contingence du néant. Nous passons de la nature à la providence, puis à la vérité propositionnelle, enfin au code. Il n'y a pas de tout, il n'y en a jamais eu. La totalisation est une décomposition. Passons. Je dois aller vite, si vite, et il y a tant à dire. Traverser les époques. Il faudrait développer tant d'articulations et de finesse pour comprendre le passage aberrant d'une époque à l'autre, ces longs glissements, pour éviter la simple causalité chronologique, le fantasme d'un destin et percevoir ce qui à chaque moment se réserve. J'aimerais seulement souligner qu'il me semble y avoir une affinité fondamentale entre la découpe énergétique du monde dans la révolution industrielle qui a eu comme résultat une indifférence et une mise au travail de toutes choses, et d'autre part la découpe binaire qui a eu cours dans la cybernétique puis dans l'informatique. Le monde est considéré alors comme un ensemble de 0 et de 1. Il s'agit là de deux valeurs énergétiques. Courant, pas courant. L'ordinateur est finalement un interrupteur très rapide avec de la mémoire. Le binaire informatique applique au monde la même logique que celle qui était à l'œuvre dans l'énergie, mais en y associant la question propositionnelle thématisée par Leibniz et le principe de raison. Et la question de la modélisation et du possible. Le monde n'est pas binaire, bien sûr. L'informatique n'est pas pythagoricienne, mais le binaire devient monde, parce qu'il est son logos. C'est la mondialisation, le devenir monde du monde. Avec Paper Rock en 2013, il s'agissait de pousser cette logique jusqu'à l'absurde. J'ai numérisé une pierre à l'aide d'un scanner 3D et j'ai imprimé tout le code ainsi produit dans un livre en papier. Le livre est donc la pierre, selon une identité qui n'est pas sans rappeler celle de Kossuth dans One on Three Chairs en 1965, mais qui perd ici toute spécificité parce que les 0 et les 1 peuvent s'appliquer à n'importe quoi d'autre. Ils sont, en ce sens, un principe indifférentiel. L'ordinateur est une machine binaire à mémoire, et celle-ci s'est appliquée en particulier à l'existence avec les réseaux sociaux. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de revenir sur le fait que notre époque est sans doute la première à mémoriser la vie des anonymes. Questionnant le rôle et la spécificité de la connaissance, et jusqu'à la possibilité future de l'histoire. Les raisons de cette hypermnésie sont pour l'instant opaques au regard du coût important du stockage des données, mais la valorisation d'entreprises comme Google est sans doute liée pour partie à cette étrange archive. Étrange parce que ses dimensions sont telles que personne, aucun agent humain ne sera à même de les consulter. L'archive inconsultable suppose que, par la découpe binaire, nous sortons d'une maîtrise simplificatrice du monde et revenons à quelque chose d'insaisissable au cœur même du calcul. Si la mémoire des data centers n'est pas humainement consultable, c'est sans doute que leur destination est autre. Avec le registre, en 2007, j'ai créé un logiciel récupérant sur Twitter toutes les occurrences d'une liste de sentiments. J'ai ensuite imprimé ceci dans des livres matériels. Chaque page correspondant à un sentiment, un livre, étant constitué de 100 pages. Il correspond à une heure. Il y a 24 livres assemblés par jour. En feuilletant les pages, nous passons d'un sentiment à un autre, sans transition. Nous savons qu'au-delà du chaos et de la trivialité du web, il y a des existences, tout aussi intenses que la nôtre. Cette bibliothèque est une archive sans lecteur. Pendant des décennies, l'informatique a été envisagée comme quelque chose de céleste. Cet immatérialisme était pourtant si aisément réfutable. On s'étonne qu'il ait pu marquer les esprits et laisser de telles empreintes encore aujourd'hui. Mais à l'origine même de la cybernétique, il y a une tension entre l'analogique et le numérique, le bruit et le code, entre Wiener et Shannon. Nous redécouvrons que l'informatique est dans le monde, truisme ontique qui se confronte à la puissance de l'ontologie céleste. L'infrastructure du web est occultée, mais lorsqu'on l'étudie, elle est si lourde, si fragile, si coûteuse et énergivore. Quant à l'immatérialité du big data, il faut la ramener au data center que des entreprises comme Facebook localise dans des pays nordiques pour profiter d'un climat favorable. En effet, il faut éviter que les machines ne chauffent trop, on les ventile, et si on peut utiliser un refroidissement naturel, le climat, alors on dépensera moins d'énergie. Ou plus exactement, la facture, notre facture, reviendra moins cher, parce qu'au final, la facture existe. La chaleur des machines se répand dans l'atmosphère, mais ce sera une externalité, comme on dit. Avec Horizon, j'ai utilisé des photographies de ces centres de données, lieux interdits aux êtres humains, et j'ai réalisé un long travelling dedans pour confronter leur matérialité à un sentiment d'infini, d'immatérialité. Nous ne cessons d'avancer dans ce couloir, comme si nous faisions du surplace, dans un rêve ou dans un cauchemar. Dans Briefing Machine, j'ai utilisé 24 climatiseurs. Côté face, la pièce est froide, bleue. Côté pile, la pièce est chaude, rouge. Parce que, comme vous le savez, on ne produit du froid qu'en rejetant de la chaleur. Les deux espaces répondent à la thermodynamique. Dans Des mémoires éteintes, j'ai communiqué avec le chef de l'infrastructure de Google, Urs Holz, et j'ai tenté à travers des documents personnels que j'ai retrouvés de lui sur le web de raconter son histoire, d'exposer cette personne si discrète et en même temps si importante. J'ai imaginé un data center de Google dans quelques siècles, lorsque la Terre, devenue trop aride pour accueillir le vivant, sera devenue inerte et minérale. Une autre intelligence, organique, inorganique, peu importe, parviendra alors, peut-être en fouillant ce site archéologique, à accéder aux données de cette espèce disparue que nous avons été. Elle reconstituera peut-être le film de ce que nous avons été en associant librement des fragments glanés ici ou là, des mémoires éteintes se finissant par un film infini monté en temps réel à partir des données du réseau, associant photographies, vidéos et textes. Godard a reconstitué le XXe siècle avec Histoire du cinéma. Peut-être faudra-t-il à présent faire les histoires du réseau, en modifiant radicalement la notion même de montage et de temporalité. Voici donc ce que serait devenu le data center de Google, la salle de montage du film impossible d'une espèce disparue, qui avait oublié le caractère local et hasardeux de ses conditions d'existence. Qu'est-ce qui se noue entre l'énergie, le big data et le monde? Pourquoi l'hypermnésie numérique est-elle également une externalisation prothétique? Le retour de la question de l'intelligence artificielle auprès du grand public en été 2015, par la publication de Deep Dream de Google, peut nous apporter quelques pistes. Je ne développerai pas ici la structure sous-jacente de ces images psychédéliques, je l'ai fait ailleurs. Il importe seulement d'observer que la machine devient capable de pareidolia, c'est-à-dire de cette faculté à voir dans le bruit d'une image quelque chose qu'elle a en mémoire, comme lorsque nous voyons des animaux dans les nuages. La perception comme hallucination contrôlée. Ces réseaux récursifs de neurones, dont le modèle existe depuis le perceptron de Rosenblatt en 1957, avaient comme objectif de permettre la reconnaissance des images du monde, et ont également permis ici de produire des erreurs, des hallucinations, puis, dans un troisième temps, de générer de nouvelles images. On nourrit ainsi une machine d'une collection de milliers d'images d'oiseaux. Elle apprend statistiquement à reconnaître si une image contient un oiseau ou non. Elle peut aussi produire l'image d'un nouvel oiseau. C'est là un tournant historial dont nous n'avons pas encore compris l'ampleur. La machine est capable de poursuivre une série, d'ajouter des éléments qui ne préexistent pas, mais que nous, humains, nous reconnaissons comme appartenant à la même série. Cette automatisation de la ressemblance est une étape majeure dans l'histoire de la mimésis et l'industrialisation de l'image photographique. L'automatisation mimétique est anthropotechnologique. Elle n'est que le fruit de la machine, elle est au final interprétée par un agent humain. La ressemblance est le fruit d'une relation. Elle est différente, cette image n'existait pas, elle est identique, elle ressemble à d'autres images. Bien sûr, il faudrait penser à Monet et à la cathédrale de Rouen. Au cours de mes expérimentations, j'ai nourri un réseau récursif de neurones de milliers d'images satellites, et devant mes yeux sont apparues des images d'une planète qui n'existait pas encore, mais qui ressemblait à la nôtre. Par là, j'ai compris que les données accumulées étaient une forme d'énergie, produite par l'exténuation terrestre, et qu'elles servaient, du fait de leur nombre disproportionné, à nourrir l'induction statistique des machines en vue de produire des données ressemblantes. Dans quel but ? S'agit-il même d'un but, d'une fin ? Il faudrait comparer la théorie aristotélicienne de l'énergia et l'histoire des flux à cette tendance profonde et lourde que je tente de décrire, à ce poids du monde. Les données existentielles sont d'une certaine façon le fuel de l'intelligence artificielle et permettent de produire des versions alternatives, c'est-à-dire des possibles. Bien sûr, on pourrait estimer qu'il ne s'agit que d'images et qu'on est loin, si loin d'une production matérielle bouleversant l'ontologie. Mais les images numériques sont matérielles. Elles sont de l'énergie qui provient d'une extraction de la Terre. Les images produisent ensuite des représentations de la Terre, un monde que nous ne faisons pas que contempler, mais sur lequel nous agissons. Nous commençons alors à entrevoir la constellation entre l'énergie, les données, les images, la Terre et les mondes. Dans Memory Center, The Dream Machine, en 2014, j'ai utilisé une base de données élaborée au département de psychologie de l'Université de Santa Clara par Adam Schneider et William Demuff, qui me l'ont gentiment fourni, et j'ai nourri un réseau de neurones qui a appris à faire de nouveaux rêves. J'ai créé un logiciel qui choisit des mots-clés dans ses rêves et qui donc permettent de faire des requêtes sur Google pour aller chercher des illustrations visuelles. Le triptyque visuel ainsi formé et la voix de synthèse qui lit le rêve forment un rêve convaincant parce que, dans le cas du rêve, les incohérences sont acceptées. Elles sont autant de promesses, de sens à interpréter. En voici un exemple que je vais vous lire. Je pense que je sais pourquoi. Je pense qu'ils vont chercher des lits. Je sais que je n'aurai pas la table. Il y a un musicien, c'est une bonne nuit. Nous préférons aller vers lui et prendre l'autre haut. Tous ensemble. La seule chose que je pense, c'est que la dernière vient à mon couple qui dit « je pense que je dis non ». Je dis « je pense que je peux voir la rue et l'autre fille et un peu de gens et les stagiaires sont là. Je dis « hé ». Elle dit que c'était un petit parc. Je vais à l'étage. L'escalier est le seul du dortoir qui était un peu plus petit. Je dois aller à la salle de bain. Je vais aux toilettes. Je pense que j'étais un peu comme dans un parc ou quelque chose comme ça. Et la rue est un peu le palais de justice. Je dis non. Je ne sais pas qu'ils sont tous vieux pendant un moment. Et la rue est une sorte de parc dans la pièce. Et je pense que les gens sont là. Je pense que je pourrais commencer. Fin de citation. J'ai nourri un autre réseau de neurones de fichiers 3D d'ossements humains, animaux et fossiles, et la machine a généré des ossements imaginaires, possibles, probables, que j'ai ensuite imprimés en 3D et retravaillés. Cet ossuaire est le fruit de la mémoire d'autres ossements. Elle est une nouvelle forme à cette pratique ancienne consistant à vivre aux côtés de plusieurs os entassés. Si nous commençons à peine à percevoir la constellation entre l'énergie, les données et la Terre, si nous partageons peut-être à présent cet avenir, alors nous comprenons aussi ce qui lie l'image, le mimétisme, la représentation et la résurrection. Car, qu'il me soit permis rapidement et trop rapidement de souligner dans ce contexte l'étrange retour du thème de la résurrection avec d'un côté la singularité technologique de Ray Kurzweil, de l'autre la contingence de Quentin Meillassou, je parle bien sûr de l'inexistence divine. La résurrection est-elle cette image, cette représentation de ce qui n'a jamais été et que pourtant nous reconnaissons? Roman est né en 1981. Il était un brillant jeune homme, animant la vie culturelle moscovite et des plateformes numériques. Il était promis un brillant avenir. Il est mort, écrasé par une voiture le 28 novembre 2015. Son amie, qu'on voit ici sur la photo, Eugenia, ne put accepter cette disparition et décida de créer un chatbot intelligent. Elle lui donna comme nourriture tous les textes de Roman et le logiciel apprit à parler comme lui grâce à une intelligence artificielle. N'importe qui peut maintenant discuter avec ce chatbot et échanger avec cette trace vivante, entre guillemets, de Roman. Sa mère d'ailleurs parle souvent avec ce logiciel qui lui permet de mieux connaître son fils jusqu'après sa mort. Elle sait bien que ce n'est pas Roman, mais elle a ainsi accès à des fragments qui ne lui étaient pas destinés. Voici le sens du monde hypermnésique, le simulacre d'une résurrection du monde à l'époque de l'Anthropocène et ou de l'extinction. Alors j'ai déjà largement débordé de 3 minutes, et j'en suis vraiment désolé. Alors voilà ce qui me gênait tant pendant cette conférence à l'Association internationale des critiques d'art, lorsque j'entendais des critiques parler d'art et d'anthropocène. Ils voulaient nous sauver, et se sauver par la même occasion. Ils voulaient survivre, et je voyais combien ce désir irraisonné était finalement immature. Combien il était même la source, peut-être, de notre extinction. Car finalement, étendre la finitude individuelle, c'est-à-dire le sentiment de mortalité que nous portons tous à notre espèce et au vivant en général, l'extinction, c'est au contraire survivre et en un sens très particulier, ressusciter. Certaines productions artistiques contemporaines peuvent, je crois, nous permettre de ressentir la beauté indestinée d'une terre revenue à sa minéralité amorphe, qui est l'anonymat de notre matière même. Alors, pour finir, une courte citation, une citation de Cormac McCarthy dans La Route. La route traversait un marécage desséché où des tuyaux de glace sortaient tout droit de la boue gelée, pareil à des formations dans une grotte. Les restes d'un ancien feu au bord de la route. Au-delà, une longue levée de ciment, un marais d'eau morte, des arbres morts émergeant de l'eau grise auxquels s'accrochait une mousse de tourbière grise et fossile. Les soyeuses retombées de cendres comme contre la bordure. Il s'appuyait au ciment rugueux du parapet. Peut-être que dans la destruction du monde, il serait enfin capable de voir comment il était fait. Les océans, les montagnes, l'accablant contre-spectacle des choses en train de cesser d'être. L'absolue désolation, hydropique et froidement temporelle, le silence. Je vous remercie.